Chapitre 254. La grotte. Malgré l'espèce de divination qui était le côté remarquable du caractère d'Aramis, l'événement, subissant les chances des choses soumises au hasard, ne s'accomplit pas tout à fait comme l'avait prévu l'évêque de Vannes. Biscara, mieux monté que ses compagnons, arriva le premier à l'ouverture de la grotte et comprit que, renard et chien, tous étaient engouffrés là. Seulement, frappé de cette terreur superstitieuse qu'imprime naturellement à l'esprit de l'homme toute voie souterraine et sombre, il s'arrêta à l'extérieur de la grotte et attendit que ses compagnons fussent réunis autour de lui. « Eh bien ! » lui demandèrent les jeunes gens tout essoufflés et ne comprenant rien à son inaction. « Eh bien, on n'entend plus les chiens. Il faut que renards et meutes soient engloutis dans ce souterrain. » « Ils ont trop bien mené, dit un des gardes, pour avoir perdu tout à coup la voix. D'ailleurs, on les entendrait rabâcher d'un côté ou de l'autre. Il faut, comme le dit Biscara, qu'ils soient dans cette grotte. « Mais alors, dit un des jeunes gens, pourquoi ne donnent-ils plus de voix ?»« C'est étrange, dit un autre. « Eh bien, mais, fit un quatrième, entrons dans cette grotte, est-ce qu'il est défendu d'y entrer par hasard ?» « Non, répliqua Biscara, seulement il y fait noir comme dans un four et l'on peut s'y rompre le cou. « Témoins nos chiens, dit un garde, qui se le sont rompus à ce qu'il paraît. « Que diable sont-ils devenus ? Se demandèrent en cœur les jeunes gens. Et chaque maître appela son chien par son nom, le siffla de sa fanfare favorite, sans qu'un seul répondît, ni à l'appel, ni au sifflet. « C'est peut-être une grotte enchantée, dit Biscara. Voyons. » Et, mettant pied à terre, il fit un pas dans la grotte. « Attends, attends, je t'accompagne, dit un des gardes, voyant Biscara prêt à disparaître dans la pénombre. « Non, répondit Biscara, il faut qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire. Ne nous risquons donc pas tous à la fois. Si, dans 10 minutes, vous n'avez point de mes nouvelles, vous entrerez, mais tous ensemble alors. » « Soit, dirent les jeunes gens, qui ne voyaient point, d'ailleurs, pour Biscara, grand danger à tenter l'entreprise. Nous l'attendons. » Et, sans descendre de cheval, ils firent un cercle autour de la grotte. Biscara entra donc seul et avança dans les ténèbres, jusque sous le mousquet de Porthos. Cette résistance que rencontrait sa poitrine l'étonna. Il allongea la main et saisit le canon glacé. Au même instant, Yves levait sur le jeune homme un couteau qui allait retomber sur lui de toute la force d'un bras breton, lorsque le poignet de fer de Porthos l'arrêta à moitié chemin. Puis, comme un grondement sourd, cette voix se fit entendre dans l'obscurité. « Je ne veux pas qu'on le tue, moi !» Biscara se trouvait pris entre une protection et une menace, presque aussi terrible l'une que l'autre. Si brave que fût le jeune homme, il laissa échapper un cri, qu'Aramis comprima aussitôt en lui menant un mouchoir sur la bouche. « Monsieur de Biscara, lui dit-il à voix basse, nous ne vous voulons pas de mal, et vous devez le savoir si vous nous avez reconnus. Mais au premier mot, au premier soupir, au premier souffle, nous serons forcés de vous tuer comme nous avons tué vos chiens. « Oui, je vous reconnais, messieurs, dit tout bas le jeune homme. « Mais pourquoi êtes-vous ici? Qui faites-vous? Malheureux, malheureux, je vous croyais dans le fort. « Et vous, monsieur, vous deviez nous obtenir des conditions, ce me semble. « J'ai fait ce que j'ai pu, messieurs, mais… « Mais il y a des ordres formels. « De nous tuer ?» Biscara ne répondit rien. Il lui en coûtait de parler de cordes à des gentilshommes. Aramis comprit le silence de son prisonnier. « Monsieur Biscara, dit-il, vous seriez déjà mort si nous n'avions eu égard à votre jeunesse et à notre ancienne liaison avec votre père. Mais vous pouvez encore échapper d'ici en nous jurant que vous ne parlerez pas à vos compagnons de ce que vous avez vu. « Non seulement je jure que je n'en parlerai point, dit Biscara, mais je jure encore que je ferai tout au monde pour empêcher mes compagnons de mettre le pied dans cette grotte. « Biscara ! Biscara ! crièrent du dehors plusieurs voix qui vinrent s'engouffrer comme un tourbillon dans le souterrain. « Répondez !» dit Aramis. « Me voici !» cria Biscara. « Allez, nous nous reposons sur votre loyauté !» Et il lâcha le jeune homme. Biscara remonta vers la lumière. « Biscara ! Biscara !» crièrent les voix les plus rapprochées. Et l'on vit se projeter à l'intérieur de la grotte les ombres de plusieurs formes humaines. Biscara s'élança au-devant de ses amis pour les arrêter et les rejoignit comme ils commençaient à s'aventurer dans le souterrain. Aramis et Porthos prêtèrent l'oreille avec l'attention de gens qui jouent leur vie sur un souffle de l'air. Biscara avait regagné l'entrée de la grotte, suivi de ses amis. « Oh, oh !» dit l'un d'eux en arrivant au jour. « Comme tu es pâle !»«
Pâle !» s'écria un autre. « Tu veux dire livide ?»«
Moi ?» fit le jeune homme, essayant de rappeler toute sa puissance sur lui-même.
« Mais au nom du ciel, que t'est-il donc arrivé ?» demandèrent toutes les voix.
« Tu n'as pas une goutte de sang dans les veines, mon pauvre ami, » dit un autre en riant.
« Messieurs, c'est sérieux, » dit un autre. « Il va se trouver mal. Avez-vous des selles ?»
Et tous éclatèrent de rire. Toutes ces interpellations, toutes ces railleries se croisaient autour de Biscara, comme se croisent au milieu du feu les balles dans une mêlée. Il reprit ses forces sous ce déluge d'interrogations.
« Que voulez-vous que j'aie vu ? » demanda-t-il. « J'avais très chaud quand je suis entré dans cette grotte. J'y ai été saisi par le froid, voilà tout.
« Mais les chiens, les as-tu revus ? En as-tu entendu parler ? En as-tu eu des nouvelles ?»«
Il faut croire qu'ils ont pris une autre voie, » dit Biscara.
« Messieurs, » dit un des jeunes gens, « il y a dans ce qui se passe, dans la pâleur et dans le silence de notre ami, un mystère que Biscara ne veut pas ou ne peut sans doute pas révéler. Seulement, et c'est chose sûre, Biscara a vu quelque chose dans la grotte. Eh bien moi, je suis curieux de voir ce qu'il a vu, fût-ce le diable. À la grotte, messieurs, à la grotte !»«
À la grotte !» répétèrent toutes les voix.
Et l'écho du souterrain alla porter comme une menace à Porthos et à Aramis ces mots
« À la grotte ! À la grotte !»
Biscara se jeta au-devant de ses compagnons.
« Messieurs, messieurs » s'écria-t-il, « au nom du ciel, n'entrez pas !»«
Mais qu'y a-t-il donc de si effrayant dans ce souterrain ?» demandèrent plusieurs voix.
« Voyons, parle, Biscara !»«
Décidément, c'est le diable qui l'a vu !» répéta celui qui avait déjà avancé cette hypothèse.
« Eh bien, mais s'il a vu, s'écria un autre, qu'il ne soit pas égoïste et qu'il nous le laisse voir à notre tour.
« Messieurs, messieurs, de grâce !» insista Biscara.
« Voyons, laisse-nous passer !»«
Messieurs, je vous en supplie, n'entrez pas !»«
Mais tu es bien entré, toi !»
Alors, un des officiers, qui, d'un âge plus mûr que les autres, était resté en arrière jusque-là et n'avait rien dit, s'avança. « Messieurs, » dit-il d'un ton calme qui contrastait avec l'animation des jeunes gens, « il y a là-dedans quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas le diable, mais qui, quel qu'il soit, a eu assez de pouvoir pour faire taire nos chiens. Il faut savoir quel est ce quelqu'un ou ce quelque chose. » Biscara tenta un dernier effort pour arrêter ses amis. Mais ce fut un effort inutile. Vainement, il se jeta au-devant des plus téméraires. Vainement, il se cramponna aux roches pour barrer le passage. La foule des jeunes gens fit irruption dans la caverne, sur les pas de l'officier qui avait parlé le dernier, mais qui, le premier, s'était élancé l'épée à la main pour affronter le danger inconnu. Biscara, repoussé par ses amis, ne pouvant les accompagner, sous peine de passer, aux yeux de Porthos et d'Aramis, pour un traître et un parjure, alla, l'oreille tendue et les mains encore suppliantes, s'appuyer contre les parois rugueuses d'un rocher, qu'il devait devoir être exposé au feu des mousquetaires. Quant aux gardes, ils pénétraient de plus en plus, avec des cris qui s'affaiblissaient à mesure qu'ils s'enfonçaient dans le souterrain. Tout à coup, une décharge de mousqueterie, grondant comme un tonnerre, éclata sous les voûtes. Deux ou trois balles vinrent s'aplatir sur le rocher auquel s'appuyait Biscara. Au même instant, Des soupirs, des hurlements et des imprécations s'élevèrent, et cette petite troupe de gentilshommes reparut, quelques-uns pâles, quelques-uns sanglants, tous enveloppés d'un nuage de fumée que l'air extérieur semblait aspirer du fond de la caverne.
« Biscara, Biscara !» criaient les fuyards. « Tu savais qu'il y avait une embuscade dans cette caverne, et tu ne nous as pas prévenus ?»«
Biscara, tu es cause que 4 de nous sont tués. Malheur à toi, Biscara !»«
Tu es cause que je suis blessé à mort !» dit un des jeunes gens en recueillant son sang dans sa main et en le jetant au visage de Biscara. « Que mon sang retombe sur toi !»
Et il roula agonisant aux pieds du jeune homme.
« Mais au moins dis-nous qui est là !» s'écrièrent plusieurs voix furieuses.
Biscara se tut.
« Dis-le ou meurs !» s'écria le blessé en se relevant sur un genou et en levant sur son compagnon un bras armé d'un fer inutile.
Biscara se précipita vers lui, ouvrant sa poitrine au cou.
Mais le blessé retomba pour ne plus se relever, en poussant un soupir, le dernier.
Biscara, les cheveux hérissés, les yeux hagards, la tête perdue, s'avança vers l'intérieur de la caverne en disant
« Vous avez raison, mort à moi qui ai laissé assassiner mes compagnons, je suis un lâche !»
Et jetant loin de lui son épée, car il voulait mourir sans se défendre, il se précipita, tête baissée, dans le souterrain. Les autres jeunes gens l'imitèrent. 11 qui restaient de 16 plongèrent avec lui dans le gouffre. Mais ils n'allèrent pas plus loin que les premiers. Une seconde décharge en coucha 5 sur le sable glacé, et comme il était impossible de voir d'où partait cette foudre mortelle, les autres reculèrent avec une épouvante qui peut mieux se peindre que s'exprimer. Mais, loin de fuir comme les autres, Biscara, demeuré sain et sauf, s'assit sur un quartier de roc et attendit. Il ne restait plus que 6 gentilshommes.
Sérieusement, dit un des survivants, est-ce le diable ?
Ma foi, c'est bien pis, dit un autre.
Demandons à Biscara, il le sait, lui.
Où est Biscara ?
Les jeunes gens regardèrent autour d'eux et virent que Biscara manquait à l'appel.
Il est mort, dirent 2 ou 3 voix.
Non pas, répondit un autre. Je l'ai vu, moi, au milieu de la fumée, s'asseoir tranquillement sur un rocher. Il est dans la caverne, il nous attend.
Il faut qu'il connaisse ceux qui y sont.
Et comment les reconnaîtrait-il ?
Il a été prisonnier des rebelles.
C'est vrai. Eh bien, appelons-le et sachons par lui à qui nous avons affaire.
Et toutes les voix crièrent
« Biscara ! Biscara !»
Mais Biscara ne répondit point.
« Bon, dit l'officier qui avait montré tant de sang-froid dans cette affaire, nous n'avons plus besoin de lui, voilà des renforts qui nous arrivent. »
En effet, une compagnie des gardes, laissée en arrière par leurs officiers, que l'ardeur de la chasse avait emporté, 75 à 80 hommes à peu près, arrivaient en bel ordre, guidés par le capitaine et le premier lieutenant. Les 5 officiers coururent au-devant de leurs soldats, et dans un langage dont l'éloquence est facile à concevoir, ils expliquèrent l'aventure et demandèrent secours. Le capitaine les interrompit.
« Où sont vos compagnons ? » demanda-t-il.
« Morts.
Mais vous étiez 16. »«
10 sont morts. Biscara est dans la caverne et nous voilà 5. »«
Biscara est donc prisonnier ? » ?»«
Probablement. » »«
Non, car le voici, voyez. »
En effet, Biscara apparaissait à l'ouverture de la grotte.
« Il nous fait signe de venir, » dirent les officiers. « Allons !»«
Allons !» répéta toute la troupe.
« Monsieur, » dit le capitaine en s'adressant à Biscara, « on m'assure que vous savez quels sont les hommes qui sont dans cette grotte et qui font cette défense désespérée. Au nom du roi, je vous somme de déclarer ce que vous savez. »
« Mon capitaine, » dit Biscara, vous n'avez plus besoin de me sommer, ma parole m'a été rendue à l'instant même, et je viens au nom de ces hommes.
Me dire qu'ils se rendent ?
Vous dire qu'ils sont décidés à se défendre jusqu'à la mort si on ne leur accorde pas bonne composition.
Combien sont-ils donc ?
Ils sont 2, dit Biscara.
Ils sont 2, et veulent nous imposer des conditions ?
Ils sont deux et nous ont déjà tué 10 hommes, dit Biscara.
Quel genre est-ce donc ? Des géants ?
Vous rappelez-vous l'histoire du bastion Saint-Gervais, mon capitaine ?
Oui, où 4 mousquetaires du roi ont tenu contre toute une armée.
Eh bien, ces 2 hommes étaient de ces mousquetaires.
Vous les appelez ?
À cette époque, on les appelait Porthos et Aramis. Aujourd'hui, on les appelle Monsieur d'Herblay et Monsieur du Vallon.
Et quel intérêt ont-ils dans tout ceci ?
Ce sont eux qui tenaient Belle-Île pour Monsieur Fouquet.
Un murmure courut parmi les soldats à ces 2 mots, Porthos et Aramis.
Les mousquetaires ! Les mousquetaires ! Répétait-il.
Et chez tous ces braves jeunes gens, l'idée qu'ils allaient avoir à lutter contre 2 des plus vieilles gloires de l'armée faisait courir un frisson, moitié d'enthousiasme, moitié de terreur.
C'est qu'en effet, ces 4 noms, D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, étaient vénérés par tout ce qui portait une épée, comme dans l'Antiquité étaient vénérés les noms d'Hercule, de Thésée, de Castor et de Pollux.
« 2 hommes !» s'écria le capitaine. « Et ils nous ont tué 10 officiers en 2 décharges ? C'est impossible, monsieur Biscara !»«
Eh, mon capitaine, répondit celui-ci, je ne vous dis point qu'ils n'ont pas avec eux 2 ou 3 hommes comme les mousquetaires du bastion Saint-Gervais avaient avec eux 3 ou 4 domestiques. Mais croyez-moi, capitaine, j'ai vu ces gens-là, j'ai été pris par eux, je les connais. Il suffirait à eux seuls pour détruire tout un corps d'armée. »
« C'est ce que nous allons voir, dit le capitaine, et cela dans un moment. Attention, messieurs !»
Sur cette réponse, personne ne bougea plus et chacun s'apprêta à obéir. Biscara seul risqua une dernière tentative.
« Monsieur, dit-il à voix basse, croyez-moi, passons notre chemin. Ces 2 hommes, ces 2 lions que l'on va attaquer, se défendront jusqu'à la mort. Ils nous ont déjà tué 10 hommes, ils en tueront encore le double, et finiront par se tuer eux-mêmes plutôt que de se rendre. Que gagnerons-nous à les combattre ?
Nous y gagnerons, monsieur, la conscience de n'avoir pas fait reculer 80 gardes du roi devant 2 rebelles. Si j'écoutais votre conseil, monsieur, je serais un homme déshonoré, et en me déshonorant, je déshonorerais l'armée. En avant, vous autres !
Et il marcha le premier jusqu'à l'ouverture de la grotte.
Arrivé là, il fit halte.
Cette halte avait pour but de donner à Biscara et à ses compagnons le temps de lui dépeindre l'intérieur de la grotte. Puis, quand il crut avoir une connaissance suffisante des lieux, il divisa la compagnie en 3 corps qui devaient entrer successivement en faisant un feu nourri dans toutes les directions. Sans doute, à cette attaque, on perdrait 5 hommes encore, 10 peut-être. Mais certes, on finirait par prendre les rebelles, puisqu'il n'y avait pas d'issue, et que, à tout prendre, 2 hommes n'en pouvaient pas tuer 80.
« Mon capitaine, demanda Biscara, je demande à marcher à la tête du premier peloton. »
« Soit, répondit le capitaine, vous en avez tout l'honneur, c'est un cadeau que je vous fais. »
« Merci, répondit le jeune homme, avec toute la fermeté de sa race.
« Prenez votre épée, alors. »
« J'irai ainsi que je suis, mon capitaine, dit Biscara, car je ne vais pas pour tuer, mais pour être tué. » Et se plaçant à la tête du premier peloton, le front découvert et les bras croisés, «
Marchons, messieurs, dit-il. »